France Culture. Avoir raison avec Marie Curie, Alexandre Morales.
Bonjour et bienvenue dans cette série d'Avoir raison avec, consacrée à Marie Curie. Vous écoutez l'épisode 3, Donner la primauté aux sciences. Si l'on connaît surtout Marie Curie pour ses découvertes, la radioactivité, le radium, ses deux prix Nobel, on parle moins de sa réflexion sur le rôle politique de la science elle-même. Et pour cause, elle s'est peu exprimée à ce sujet, préférant probablement l'âpreté de la paillasse au tumulte du débat public et aux lumières du monde médiatique. Pourtant, elle s'inscrit bel et bien dans une tradition de pensée, celle qui fait de la marche des sciences une quête de l'humanité tout entière. Alors, pour comprendre la place que Marie Curie attribue à la recherche au sein de la société, il faut l'observer en train d'agir, dans son laboratoire, dans ses lettres, sur les routes de guerre ou dans quelques discours. C'est par ses actes et parfois quelques mots que transparaît sa vision du travail scientifique, une force d'émancipation, une exigence, une responsabilité. Dans cet épisode, nous allons tenter de cerner cette pensée qui ne se proclame pas souvent, mais qui se construit en creux au fil d'une vie consacrée au progrès humain.
Je pense que et l'un et l'autre, et Pierre Curie et Marie Curie, sont, je dirais, dans cette idée qui, à mon avis, sur certains points, est complètement solide, et auquel je pense qu'on devrait croire aujourd'hui, sur le fait que la science est un élément décisif pour le progrès. Autrement dit, la liaison, la science, qui jouait un rôle déjà très important avant, mais où on voyait bien que, je dirais, les questions concrètes qui se posaient dans les activités, faisaient émerger des idées qui faisaient progresser la science. Là, on arrive à la notion de primauté de connaissance et finalement à la nécessité de prévoir les conditions pour que le développement des connaissances se fasse. Et ça, ils y croyaient l'un et l'autre. Et c'est une chose que ça paraît. M'est arrivé de discuter avec ma mère, par exemple, y compris dans le bureau où nous sommes, exactement, parce que c'était son bureau. Marie, en fait, était la très bonne élève type. Vous la mettez quelque part, si elle veut réussir, ça réussit. C'est pas du tout le style de Pierre Curie qui fait ce qui l'intéresse et ne réagit pas de la même façon. Par contre, sur les problèmes enseignement, choses comme ça, donc Marie, la très bonne élève, va avoir des positions pour l'éducation de ses enfants du style « il faut éveiller la curiosité, il faut pratiquer ». C'est là l'idée que l'enseignement doit être basé sur les sciences, donner la primauté aux sciences.
Et bonjour Bernadette Binceau de Vincent.
Bonjour.
Vous êtes historienne et philosophe des sciences, professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pierre et Marie Curie croyaient à l'idée de la connaissance scientifique comme condition de possibilité du progrès de l'humanité. C'est peu ou prou les mots de leur petite fille Hélène Langevin-Joliot qu'on vient juste d'entendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Bernadette Binceau de Vincent?
Oui, absolument. C'était un peu la base de la tradition positiviste qui s'est développée au XIXe siècle.
Bah justement, cette place prépondérante des sciences dans l'idée de progrès, elle ne vient pas de nulle part. Pour Marie Curie, tout commence dans sa jeunesse, dans les années 1880 à Varsovie, dans une partie de la Pologne qui est sous domination de l'Empire russe. C'est là qu'elle découvre justement le positivisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit Qu'est-ce que c'est que le positivisme?
Alors le positivisme, c'est un mouvement qui est né en France, puisque le terme a été forgé par Auguste Comte, qui est à la fois un mouvement scientifique et politique. La devise est « ordre et progrès ». Et donc, ce mouvement s'est répandu en France et il y a une sorte de vulgate positiviste à la fin du XIXe siècle. Et il y a plusieurs tendances. Il y a un positivisme religieux, qui est vraiment les descendants d'Auguste Comte. Il y a un positivisme plutôt républicain, dont le chef de file est un peu Littré, le médecin. Il y a un positivisme scientifique porté par Renan, Berthelot aussi. Et donc, c'est un peu dans cette tradition que s'inscrivent les Curie. Et il a aussi beaucoup essaimé à l'étranger. Il y a un très bon livre qui est paru d'ailleurs, qui s'appelle « Un siècle de positivisme » par Annie Petit, qui décrit très bien toute cette irrigation du monde entier par le positivisme.
Il faut peut-être qu'on décrive à quelle vision du monde renvoie le positivisme. C'est une idée de hiérarchisation des disciplines, une idée d'une avancée inexorable vers plus de rationalité scientifique. C'est ça le terme.
Alors, c'est plus compliqué que ça. Effectivement, c'est la science qui est moteur du progrès, mais ça ne veut pas dire du tout que la science seule pourrait gouverner le monde. Il y a une loi des trois états qui est la base, c'est-à-dire qu'on passe de l'âge religieux, puis à l'âge métaphysique, et maintenant il faut entrer dans l'âge positiviste, où la politique elle-même deviendra une science. Mais ça n'est pas vraiment un scientisme, au sens où c'est pas une religion de la science.
Oui, ça met pas les mathématiques et la physique au-dessus de tout, à l'inverse, il y a une espèce de hiérarchisation, il faut s'émanciper de la métaphysique, du monde religieux pour aller vers la sociologie et la science politique.
Voilà, l'idée d'Auguste Comte, c'était vraiment de fonder la politique sur des bases scientifiques. Et il a vraiment œuvré à ça. Mais lui n'était pas très républicain, alors que le positivisme s'est vraiment fondu avec l'idéologie, l'idéal de la Troisième République en France.
Vous parliez d'un essaimage du positivisme en Europe et à l'étranger. Marie Curie découvre le positivisme en Pologne. Quelles sont les spécificités du positivisme à la polonaise ?
Alors, le positivisme polonais est assez spécial. Il est, je dirais, plus proche du saint-simonisme, c'est-à-dire le progrès, c'est science, industrie, commerce. Et c'est un mouvement beaucoup plus pragmatique, pas du tout idéaliste. C'est un mouvement très pragmatique qui a deux objectifs fondamentaux. C'est le patriotisme, puisque la Pologne était en partie occupée par les Russes à l'époque, et il fallait libérer vraiment la Pologne de l'emprise russe. Et il était également plutôt réformiste. Il y avait des mouvements socialistes, mais les positivistes, et le beau-frère de Marie Curie, Dulski, qui était marié avec Bronia, sa sœur, lui était vraiment révolutionnaire. Et s'ils sont venus en France, c'est parce qu'ils risquaient le gros en Pologne. Tandis que elle et sa sœur Bronia, d'ailleurs, ont adhéré dès l'âge de 18 ans au mouvement positiviste. Et ce mouvement positiviste, lui, y misait essentiellement sur une réforme de la société par l'éducation.
Et c'est pour ça que c'est un mouvement qui laisse une grande part à l'éducation des femmes aussi, ce dont va bénéficier Maria Sklodowska, qui est la future Marie Curie. Et comment ça se traduit, ça, son adhésion au positivisme dans ses actes? Je pense par exemple au fait qu'elle a enseigné à l'université volante de Varsovie.
Alors, elle n'a pas enseigné, non, elle a pris des cours. Mais c'est une tradition familiale chez les Curie. Hein. Sa mère était directrice d'une école. Elle a une tante qui a fait des études à l'université de Genève. Enfin, vraiment, et les femmes devaient apprendre. Et ça faisait partie vraiment de leur idéal. Et elle-même a... elle n'a pas vraiment pu, elle a commencé à l'université volante. L'université volante s'adressait aux femmes, aux hommes, et surtout elle délivrait un diplôme au bout de 6 ans d'études. C'est ça qui était...
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'université volante, justement ?
Alors c'était une université qui n'avait pas de lieu, puisque c'était interdit par les autorités russes.
Parce qu'elle était en langue polonaise.
Elle était en langue polonaise et elle était orientée vers les sciences. Et cette université volante, les cours avaient lieu dans des sièges d'associations tenus en général secrets, c'était clandestin. Hein. Mmh. Et Marie Curie n'a pas vraiment pu le suivre parce qu'après, quand elle est sortie du gymnasium, qui est le lycée, à 18 ans, elle a dû s'employer comme gouvernante dans des familles en province. Mais justement, dans les familles où elle était gouvernante en province, elle a profité de son statut pour donner des cours aux paysans du coin, des cours de sciences et des cours en général aux paysans. Donc elle croyait vraiment beaucoup dans l'éducation et les vertus de l'éducation.
Et elle espérait aller à l'université, c'est pour ça qu'elle part en France, parce qu'elle ne pouvait pas aller à l'université en Pologne. Donc Maria Sklodowska arrive en France en 1891, où elle rencontre peu après Pierre Curie, elle l'épouse en 95. Mais il faut préciser donc qu'avant de rencontrer Pierre, Maria a pour projet de retourner en Pologne pour devenir enseignante. Donc là, on voit bien la filiation et la continuité avec le travail de ses parents, avec cette idée du positivisme et de l'éducation. Mais elle est convaincue de rester par Pierre Curie, et dans une lettre de 1894, il la demande en mariage et il lui propose de partager ses trois rêves.
Je souhaite vivre auprès de vous, hypnotisé par nos rêves, votre rêve patriotique, notre rêve humanitaire et notre rêve scientifique. C'est une belle demande en mariage.
C'est une très belle demande en mariage.
Et ces trois rêves, effectivement, ont infusé toute leur vie commune, qui fut brève, hélas, puisque
11 ans.
Pierre décède en 1906, victime d'un accident de voiture. Et en tout cas, vraiment, ils ont tous les deux partagé ces rêves. Je dirais que Pierre était plus rêveur qu'elle. Elle était plutôt pragmatique et d'un tempérament pratique. Lui était vraiment un rêveur.
France Culture, avoir raison avec Marie Curie, Alexandre Morales.
Nous vivions très unis, nous intéressant en commun à toutes choses. Travail théorique, expérience de laboratoire, préparation de cours ou d'examen. Pendant 11 années de vie commune, nous ne nous sommes presque pas séparés. Il m'a été donné de le connaître comme il le souhaitait et de pénétrer sa pensée chaque jour davantage. Il était autant et plus que tout ce que j'ai pu rêver au moment de notre union. Constamment grandissait mon admiration pour ses qualités exceptionnelles, d'un niveau si rare et si élevé qu'il m'apparaissait parfois comme un être presque unique. Par son détachement de toute vanité, de ces petitesses qu'on découvre chez soi-même et chez les autres, et que l'on juge avec indulgence, non sans aspirer à un idéal plus parfait. Dans ses relations scientifiques, il n'avait aucune âpreté et ne se laissait pas influencer par l'amour-propre et le sentiment personnel. Tout beau succès lui faisait plaisir, même dans un domaine où il s'attendait à avoir la priorité. Il disait « Qu'importe que je n'ai pas publié tel travail si un autre le publie ». Son désintéressement était si spontané qu'on songeait à peine à le remarquer. Les moyens matériels ne pouvant servir son point de vue qu'à assurer, en dehors d'une existence simple, la possibilité d'aider les autres et de travailler selon ses goûts.
On vient d'entendre un texte de Marie Curie lu par l'immense comédienne Maria Casares en 1969. Bernadette Binceau de Vincent, est-ce que toutes ces qualités qu'elle prête à Pierre Curie, est-ce qu'on les retrouve? Est-ce que ce désintéressement existe aussi chez Marie Curie?
Oui, elle n'est pas vraiment intéressée financièrement au sens, mais elle est intéressée à faire valoir sa recherche et notamment à développer les moyens pour pousser plus loin sa recherche. Or, la recherche sur la radioactivité qu'ils ont découverte et qui leur a valu le prix Nobel de 1903, cette recherche, c'est une recherche coûteuse. N'oubliez pas que pour extraire un gramme de radium, il faut utiliser des tonnes de pêche-blinde, c'est-à-dire de minerai d'uranium. Ensuite, ce minerai d'uranium, il faut en extraire un tout petit peu, un kilo de bromure de radium. C'est vraiment du travail industriel. Et eux, ils l'ont fait dans un hangar de l'école de physique-chimie de Paris. Mais très vite, dès qu'ils ont eu le prix Nobel, elle a, et ils ont tous les deux, passé un contrat avec la Société Centrale des Produits Chimiques pour que ça soit fait en usine, ça. Et ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau aussi. Et tout ça pour obtenir un tout petit peu, un gramme de radium. Et ce gramme de radium, qui est extrêmement précieux, puisqu'à partir de là, ils vont étudier les propriétés du radium, ce gramme-là, ils ont demandé quand même à avoir une indemnité d'argent qui leur est versée chaque fois que quelqu'un se produit un gramme de radium par cette société.
Ça contredit un petit peu l'idée qui est assez répandue que Pierre et Marie Curie auraient refusé de breveter leur découverte, vraiment parce que c'est un savoir qui appartient à l'humanité.
Oui, ils ont cherché à valoriser industriellement le radium. Très vite, d'ailleurs, dès 1906, elle crée avec une société industrielle, Armand de Lille, je crois, elle s'appelle, des applications commerciales et cosmétiques du radium. Je veux dire qu'ils ont fait vraiment, ils ont utilisé ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie des promesses. Hein. C'est-à-dire, avec le radium, vous allez avoir une peau plus belle, vous allez résoudre, etc. Ils ont vraiment utilisé les ressources de marketing, si je peux dire, pour faire connaître le radium.
Et alors, comment Pierre et Marie Curie envisagent-ils leur propre contribution à la marche des sciences? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être des rouages importants de cette machine scientifique?
Alors, ils sont convaincus, effectivement, qu'ils ont un rôle à jouer. Et l'attribution de deux prix Nobel pour elle l'a quand même confirmé. Mais c'est quelque chose qui est une recherche essentiellement collective pour eux. Là, je pense que Marie Curie s'est beaucoup, beaucoup démenée pour créer une recherche collective sur le radium. Elle avait des associés très fidèles, notamment André de Bierne, qui a aidé au lien avec l'industrie. Et quand elle a décidé, avant même la guerre, de créer l'Institut du Radium, elle a vraiment tout de suite lié avec des médecins pour qu'il y ait une antenne médicale, qui existe toujours, l'antenne médicale qui était confiée au docteur Claude Rigaud, et elle dirigeait l'antenne physique-chimie.
Et pour comprendre peut-être un petit peu mieux leur approche de la science et leur ouverture d'esprit aussi, il y a un passage qui est assez intéressant et dont on ne parle pas souvent, c'est leur approche du spiritisme. J'aimerais bien que vous m'en disiez quelques
mots. Alors ça, c'est propre à Pierre, mais pas à elle. Elle n'est pas du tout spirite, pas à ma connaissance. Mais il y avait une grande vague à la fin du 19e siècle, une vague internationale de succès du spiritisme, notamment des tables tournantes. Et il y avait des femmes médiums qui circulaient de pays en pays et qui se soumettaient à des enquêtes scientifiques, à des expériences scientifiques. Et une certaine Eusapia Palladino, qui avait déjà conquis des grands médecins italiens, voyager en Allemagne, voyager en Russie, a séjourné en France en 1904-1905. Et la Sorbonne a organisé des séances avec elle pour voir d'où venait cette force qu'elle avait de communiquer avec des esprits et de soulever des tables, de léviter des tables. Parce qu'il était ingénieur, Pierre Curie avait mis au point un électromètre pour mesurer des quantités d'électricité très faibles. Et il a participé à ces séances avec Eusapia Palladino à la Sorbonne. Les électromètres étaient placés sous la table pour mesurer si c'était une force électrique qui soulevait la table. Il y a participé également avec son élève, Paul Langevin. Et à l'époque, eh bien, ils étaient vraiment perplexes.
Ouais, ils voulaient vraiment comprendre scientifiquement si, oui ou non, de tels phénomènes paranormaux pouvaient
exister. C'était crédible. C'était crédible parce que c'est l'époque où on découvrait beaucoup d'interactions entre des rayons assez mystérieux, comme les rayons X,
bien sûr.
La radioactivité. Il y avait les fameux rayons N qu'on pensait avoir découverts à Nancy. Et ces interactions laissaient penser que peut-être ça pouvait agir sur le psychisme.
Alors, je vous propose qu'on fasse peut-être un petit bond en avant, puisque on l'a dit, en 1906, Pierre Curie meurt, Marie Curie reçoit un second prix Nobel en 1911, et puis ensuite, il y a la Première Guerre mondiale, bien sûr. Alors, on va pas trop défricher le sujet, parce que c'est l'objet de notre prochain épisode. Néanmoins, il faut quand même dire que Marie Curie s'engage, elle se mobilise dans l'effort de guerre, et elle en ressort changée. Et elle doit batailler durant la Première Guerre mondiale pour aller sur le front, pour obtenir des financements. Et en fait, à ce moment-là, elle devient une vraie gestionnaire, en vérité.
Oui, ce qu'elle a vraiment appris, comme beaucoup de femmes, pendant la Première Guerre mondiale, puisque les femmes sont montées au créneau pour faire marcher les infrastructures qui étaient désertées par les hommes qui étaient au front, elle a vraiment conquis une notoriété et surtout un savoir-faire pour convaincre, pour aller dans les ministères, arpenter, lever des fonds, etc. Et elle a mis ça vraiment au service de l'Institut du Radium après la guerre, puisque l'Institut a pu ouvrir après la guerre. Mais il y avait très peu de scientifiques après la guerre, puisque malheureusement les pertes humaines étaient considérables. Et puis surtout, il n'y avait plus du tout d'argent pour la recherche. Et pour faire marcher cet institut tout neuf, tout beau, eh bien, il fallait lever des fonds. Pour ça, elle a vraiment utilisé le réseau de ses amis Jean Perrin, Georges Urbain, qui étaient des amis très proches, amis du groupe de l'époque, des amis de l'affaire Dreyfus. Et elle a, avec eux, levé des fonds pour créer vraiment faire marcher son institut et avoir une antenne avec des liens avec l'industrie, notamment avec Georges Urbain à Arcueil. Mais ça suffisait pas, parce qu'il y avait si peu d'argent public qu'il fallait aussi utiliser le mécénat pour faire marcher la science. Et là, elle n'a pas hésité. Elle est allée trouver les banques, la banque des frères Lazare, la banque Rothschild. Elle a vraiment essayé d'obtenir de l'argent. Il y a eu un grand concert à l'Opéra, en je ne sais plus quelle année, mais dont tout l'argent est allé au bénéfice de l'Institut du Radium.
Et pour ça, elle se sert aussi de sa notoriété dont elle a pris conscience pendant la guerre.
Alors là, elle a servi, elle s'est utilisée sa notoriété notamment pour le fameux voyage aux États-Unis qu'elle entreprend avec ses deux filles grâce à Mary Meloney, qui est une journaliste américaine et très féministe. Et là, elle a parcouru les États-Unis. Elle a su utiliser les associations féministes pour faire valoir son image de marque. Elle est devenue une star scientist.
Pour récupérer du radium.
Ouais. Une vedette qui a utilisé l'image magique un peu du radium pour faire quoi ? Pour faire vraiment de l'entrepreneuriat scientifique. Elle est devenue vraiment une savante entrepreneur et elle a su utiliser tout cet argent pour faire fonctionner ce qu'on appellera après la Deuxième Guerre mondiale la Big Science, puisque l'Institut du Radium, c'était vraiment déjà de la science importante. Non seulement il y avait cette antenne pratique médicale, mais pour l'Institut lui-même, il fallait beaucoup, beaucoup de chercheurs. Elle a employé jusqu'à 240 techniciens et chercheurs. Elle a employé beaucoup de femmes étrangères et elle a ouvert vraiment l'Institut du Radium à la concurrence internationale, parce qu'elle n'était pas la seule à utiliser la radioactivité et à vouloir développer les propriétés de la radioactivité.
Et justement, là, vous me parlez d'internationalisme. Ça, c'est aussi une grande partie de la vie d'après-guerre de Marie Curie qui veut ouvrir effectivement la science à l'international. Elle pense la science vraiment comme une construction internationale et elle veut créer une internationale de scientifiques, en fait, tout simplement.
Alors, dès avant la Première Guerre mondiale, elle était déjà connue sur la scène internationale puisqu'elle a participé à la première grande conférence internationale, le Conseil Solvay de 1911, où elle était mal en point parce que c'était en pleine affaire Langevin. Mais elle a quand même beaucoup de relations internationales. Et dès avant la Première Guerre mondiale, elle utilise, parce que les relations internationales, pour imposer l'étalon des radioactivités qu'elle-même a mis au point dans son laboratoire et qu'elle a imposé qu'il s'appelle Curie.
Et qui aujourd'hui ne s'appelle plus le Curie.
Non, maintenant il s'appelle plus Curie et l'étalon a changé. Mais là, c'était vraiment l'étalon, c'est elle qui l'a fabriqué dans son laboratoire et elle a réussi à l'imposer dans un monde qui était exclusivement mâle. Et très international, puisqu'il y avait de la radioactivité en Angleterre, au Canada, en Allemagne, en Autriche. C'était vraiment une grande affaire, la radioactivité.
Elle intègre aussi la Commission internationale de coopération intellectuelle, donc la CICI, qui est créée sous l'égide de la Société des Nations en 1922, et qui réunissait en fait tous les intellectuels et les scientifiques d'Europe. C'est un petit peu l'ancêtre de l'UNESCO. Et elle encourage même Albert Einstein. Elle lui dit « Pour ma part, je crois que l'acceptation de votre part comme de la mienne serait sans doute nécessaire si nous avions le ferme espoir de rendre quelques services réels. Mon sentiment est seulement que la Société des Nations, quoique encore imparfaite, est un espoir pour l'avenir. »
En effet, la Commission internationale de coopération intellectuelle, qui était présidée par Henri Bergson, a œuvré pour que les relations intellectuelles et scientifiques reprennent après la Première Guerre mondiale, alors qu'il y avait un boycott des pays de l'Entente, c'est-à-dire l'Allemagne, l'ex-Autriche-Hongrie. Et ils ont vraiment, et c'est pour ça qu'Einstein hésitait, puisque lui-même était professeur à Berlin, et ils ont essayé de faire revenir l'Allemagne dans les relations internationales.
Mais c'est ça leur espoir, c'est ça l'espoir dont elle parle dans cet extrait. Qu'est-ce qu'elle espère accomplir ?
Alors elle a beaucoup travaillé pour constituer des bases de documentation internationale. Elle est toujours très pratique. Et donc constituer des bibliothèques internationales, des bases de documentation internationales qui permettent vraiment de faire circuler l'information scientifique qui était considérable.
Elle milite vraiment pour un accès universel au savoir scientifique. Enfin, elle milite, c'est un grand mot parce que Marie Curie n'a jamais été vraiment militante, mais elle dénonce en tout cas l'accaparement du savoir scientifique par des familles aisées. Elle dit notamment que pour elle, toute nation perd chaque année une forte partie de la sève vitale la plus rare et la plus précieuse parce que beaucoup trop de gens n'ont pas accès au savoir scientifique.
L'accès et le développement de la culture scientifique, c'est vraiment quelque chose qui la motive et qu'elle partage d'ailleurs avec le groupe de ses amis, Jean Perrin, qui va être le promoteur du Palais de la Découverte qui ouvre en 1937. Et ce petit groupe a vraiment travaillé pour répandre, et Paul Langevin en est aussi un des promoteurs, répandre la science dans toutes les couches de la société et pour qu'on cultive la science fondamentale et pas simplement la science orientée vers les techniques et l'industrie.
Tout à fait. Elle dit que notre société ne comprend pas la valeur de la science. Je suis de ceux qui pensent que la science a une grande beauté. Qu'est-ce qu'elle penserait peut-être aujourd'hui de la façon dont on traite la science ?
Alors, je pense que la recherche scientifique actuelle ne répond pas du tout à son idéal. On le voit d'ailleurs par le sort qui est réservé aujourd'hui au Palais de la Découverte, qui ne risque de ne pas réouvrir. Puis c'est quoi ? Parce que la science est devenue essentiellement orientée justement vers la croissance économique et beaucoup plus orientée vers les applications.
Très bien, merci beaucoup Bernadette Binceau de Vincent de nous avoir éclairé sur le personnage complexe qu'est Marie Curie. Je rappelle que vous êtes philosophe des sciences, professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Un grand merci aussi à la réalisatrice de cette émission, Vanessa Nadjar, et à Jordan Fuentes à la technique aujourd'hui. Demain, nous verrons comment cette scientifique de renom s'est mise au service de la France au moment de la Grande Guerre. Et nous serons accompagnés de l'historienne Nathalie Pijarmico.